Vous écoutez
RMC. RMC, midi 15h. Estelle Midi.
Rémi Barré.
C'est de midi à 15h. Midi, 15h. C'est sur RMC et sur RMC Story. Le RMC Story, c'est le canal 23 de la TNT. Évidemment. Et vous êtes dans Estelle Midi. Merci d'être avec nous. Autour de moi, il y a toujours Alfred Orange, journaliste RMC, Daniel Riolo, collègue journaliste RMC également, Anne-Sophie Saint-Père, militante associative, et Thierry Moreau, journaliste média. Dans un instant, les automobilistes français de plus en plus agressifs. Alfred nous le dira, il y a une nouvelle étude qui vient de paraître. Sommes-nous tous devenus des sauvages au volant? Vous nous appelez au 32-16 à 13h30, ce sera le meilleur du jour sur RMC avec le zapping. À 14h, ça se commence là, dans quelques heures, le week-end de l'Ascension, très long, très long cette année. Faut-il partir à tout prix pour être heureux? Vous allez être très nombreux sur les routes. À 14h40, les immanquables, les infos qu'il ne faut pas manquer aujourd'hui. Et puis un merci à vous. Les podcasts d'Estelle Midi ont été téléchargés 732 000 fois le mois dernier, en hausse de 19% sur un an. RMC, première radio privée sur les podcasts. Daniel, tu n'y es pas étranger, puisqu'en plus d'Estelle Midi, l'after se cartonne comme d'habitude, j'allais dire, mais ça devient une très bonne habitude sur nos plateformes. Vous pouvez également retrouver Tu Préfères, notre podcast quotidien exclusif avec tous les chroniqueurs d'Estelle Midi. N'hésitez pas à vous y rendre. Et encore une fois, merci à vous.
RMC Estelle Midi.
C'est le comportement du jour, le comportement des automobilistes français au volant, qui serait de plus en plus déplorable. Alfred, c'est ce que nous dit le dernier baromètre de la Fondation Vinci Autoroute.
Exactement, quelques chiffres alarmants qui éclairent nos comportements au volant. D'après ce baromètre, 67% des conducteurs interrogés avouent injurier les autres conducteurs, 55% klaxonnent ceux qui les énervent et un tiers colle délibérément les voitures qui les agacent. Des comportements agressifs qui font de nous des dangers publics sur la route. Toujours d'après cette étude, 90% des automobilistes disent dépasser les limites de vitesse autorisées. Deux tiers oublient systématiquement de mettre leur clignotant pour tourner ou téléphone au volant. Bref, le bilan est affolant et crée ainsi ce climat de peur qui nous fait littéralement perdre les pédales.
Sommes-nous tous devenus des sauvages sur la route? Vous nous appelez au 32. Thierry Moreau, qui fait pas mal de routes.
Oui, je fais 820 km par jour, oui, à peu près.
Oula, ça sent la nervosité, ça.
Pas du tout. Pas du tout. Je pense qu'avec l'âge et avec le véhicule électrique, ça s'agit. Mais j'ai pensé à vous, en fait, Rémi, ce matin, parce que j'étais bloqué dans une avenue. Et devant moi.
Et donc, t'as insulté quelqu'un et tu as pensé à moi.
Pas du tout. Je vous raconte. C'était le cas typique où un carrefour est bloqué et les gens s'engagent plutôt que de laisser le carrefour se dégager.
Bien, oui.
Et donc, quelqu'un est sorti de sa voiture et a tapé du poing sur la voiture d'une autre personne, d'une jeune femme qui était terrorisée, évidemment, dans sa voiture. Ouais. Et j'étais en train de penser au sujet. On allait parler. Donc, oui, je pense qu'il faut quand même distinguer deux choses. Moi, ça m'arrive d'insulter dans mon habitacle. Ça reste dans mon habitacle une fois que c'est fermé. Et je pense que c'est une sorte de soupape. Et en tout cas, ça permet de décompresser un peu. Et pour autant, je ne sortirai pas de la voiture. Je ne prendrai pas un cric pour aller défoncer la tête de celui qui a mal fait un truc devant moi. Donc, je pense qu'il y a vraiment une limite à ne pas franchir. Il y a ceux qui considèrent leur véhicule comme étant une arme par destination, quasiment. Et puis ceux qui, tout simplement, gueulent dans leur voiture. Et ça arrive très souvent.
Toi qui roules pas mal, quand on entend les chiffres qui sont donnés par Alfred, c'est quand même impressionnant.
Oui, sauf que alors, je voulais revenir sur ces chiffres-là. Moi, je ne vois pas de rapport entre le fait que des gens soient incivils par rapport au code de la route, c'est-à-dire roulent plus vite, ne mettent pas leur clignotant et utilisent le téléphone au volant, et l'agressivité par ailleurs. Je vois pas vraiment. Excusez-moi.
Non, je vois pas le rapport.
Moi, je le vois très bien le rapport parce que la route, tu la partages. Et lorsque tu as quelqu'un devant toi, même si cette personne n'est pas agressive, mais qui téléphone au volant, qui roule n'importe comment, et qui
plus facilement envie de l'insulter, Rémi. Bravo.
Rien à voir. Non, mais il y a une véritable mise en danger des autres. Pour moi, c'est de l'agressivité.
Je vais te dire, quand quelqu'un devant moi zigzague et que je vois qu'il est au téléphone. téléphone, je sais surtout de m'éloigner. C'est-à-dire que je vais le dépasser en respectant les
limitations. Oui, mais ça crée une ambiance générale.
Moi, je crois pas. Je crois plus au fait qu'aujourd'hui, on est dans une situation où c'est difficile de circuler parce que quand même, on va pas se mentir, un centre de ville, on réduit la place de la voiture et on contraint les automobilistes à des embouteillages et on restreint la facilité de circuler en voiture. Donc un énervement qui grossit. Au fait qu'on est dans une société où c'est pas facile en ce moment et tout le monde a des soucis et que ça augmente, je vois plus cette corrélation là plutôt que le fait de dire les gens roulent plus vite. Téléphone au volant et ça augmente l'agressivité. Je vois pas la corrélation.
Daniel,
bon, je passe vite sur l'idée qu'effectivement, de toute façon, le climat de violence en France aujourd'hui n'a jamais été aussi fort, donc ça doit se répercuter dans la bagnole. Mais la bagnole, ça reste quand même quelque chose de particulier où on voit des gens parfois très calmes qui deviennent complètement fous quand ils sont au volant, qui insultent dans tous les sens. Et j'ai plutôt essayé de comprendre pourquoi on pouvait en arriver à ce genre d'excès. Alors, j'ai pas d'hypothèse, j'ai pas d'enquête. Enfin, j'ai une hypothèse, mais j'ai pas d'enquête. Ça ne s'appuie que peut-être comme ça sur une impression. Est-ce que le fait de se dire, bon, d'abord, à partir du moment où on est dans un moyen de transport, tu montes l'avion, le train, la voiture, il peut y avoir un accident? Donc il y a une sorte de crainte préalable qui fait que tu es dans une situation où il peut se passer quelque chose que tu ne contrôles pas forcément, puisque tu y as les autres avec toi. Comme tu disais, la route se partage. Donc comme tu dis, parfois le mec de devant, il est en train de zigzaguer. Donc si jamais tu vois il zigzague un peu trop longtemps et que la scène dure, bah tu vas devenir de plus en plus nerveux. Et cette nervosité va te pousser à insulter une fois que tu l'auras dépassé. Mais pauvre con, pourquoi t'as zigzagué comme ça? Tu m'as mis en danger. Est-ce qu'il y a le facteur économique qui est à travers cet accident, même s'il n'est pas grave, sans imaginer le drame, l'accrochage, réparer une bagnole, souvent ça coûte de l'argent, donc t'as pas envie qu'on esquinte ta voiture, qu'un mec te frôle d'un peu trop près, donc ça va susciter une nervosité qui va te pousser peut-être à l'insulte. J'ai élaboré cette hypothèse parce que finalement, sur la route, il n'y a pas que les voitures. Et il n'y a pas que le gros beauf qui insulte en voiture. Le bobo parisien à vélo, il est également très nerveux. C'est vrai. Parce que il insulte de plus en plus vite, c'est vrai. Sur les vélos, tu vois des mecs, mais ils sont complètement fous. D'abord, ils se croient tout permis, c'est les rois de la route et tout. Mais est-ce que c'est aussi parce qu'ils sont à vélo et ils savent que ça peut être dangereux, au-delà parfois de constater qu'ils font un peu n'importe quoi? Est-ce que ça les pousse également à insulter, à s'en prendre à la voiture? Ouais, fais attention à moi, pauvre con, machin. Il y a une sorte de tension qui se crée, qui peut peut-être venir de ces deux aspects-là. Parce qu'après, je roule pas assez en bagnole pour tomber sur des scènes comme ça. Donc je peux pas aller plus loin dans l'analyse. Mais effectivement, je vois beaucoup de gens nerveux, ça oui, ça c'est sûr.
Anne-Sophie Saint-Père.
Alors moi, je me sens assez peu concernée parce que vous connaissez mon amour des transports en commun, ce qui fait que je conduis généralement quand c'est dans des coins assez paumés où il n'y a pas trop d'enjeux de nervosité ou de peur au volant, quoi. C'est assez tranquille. Mais du coup, je suis allée regarder. Alors, c'est pas un phénomène français, hein. Il y a même un nom anglo-saxon, le road rage, la rage de la route. Et alors, il y a énormément de vidéos d'incidents de road rage. Mais j'en ai trouvé des États-Unis, de Belgique, du Canada. Il y a eu un accident à Gatineau hier à cause d'un incident de road rage. Et il y a même une série sur Netflix, je ne sais pas si je peux le dire, mais qui s'appelle Acharné, dont le point de départ, c'est un conflit entre deux automobilistes pour un truc de place de parking. Et ensuite, ils passent toute la série à se chercher parce qu'en fait, ils expulsent toute leur frustration et leur colère à travers cet incident de conduite. Donc voilà, j'ai pas vraiment d'explication. Je suis allée un peu regarder. Il y a des psychologues qui disent que le fait d'être dans un habitacle un peu coupé, ça permet de se lâcher davantage. Et puis surtout, il y a un peu un enjeu d'impatience. C'est-à-dire que souvent, le moment où les gens s'énervent, c'est quand ça ralentit, quand on est bloqué. Et c'est vrai que c'est ça va avec une époque où on est tout le temps hyper pressé. Et par ailleurs, moi, je suis tout le temps en retard. Donc, j'ai aussi des moments de panique sur le temps. Mais dans le métro, on est vraiment beaucoup trop avec les autres pour se mettre en colère.
Alors, justement,
alors que
tu
dans un habitacle, ouais.
Est-ce que tu notes pas, par exemple, je prends beaucoup moins que toi, mais j'ai souvenir quand même que, tu sais, si le métro ou le train bloque un peu, que tu commences à sentir que tu vas être en retard, est-ce qu'il n'y a pas des gens qui commencent à insulter, à cause de ces cons, je vais arriver en retard? Elle existe aussi, cette nervosité quand même, parfois dans les transports.
Non.
Quand il y a trop de monde dans le wagon, donc c'est plus visible.
Dans les transports, je pense qu'on est passé au-delà. On a franchi un cap. Aujourd'hui, c'est le fatalisme. Non mais je plaisante à moitié.
En fait, on est tous dans le même wagon en fait, donc on va pas s'insulter les uns les autres, donc c'est pas tant le
sujet. On vous pose la question, sommes-nous tous devenus des sauvages sur la route? Vous nous appelez au 3216 et Adrien nous rejoint. Bonjour Adrien.
Ouais, bonjour, bonjour à tous. Bonjour.
Bienvenue dans Estelle Midi sur RMC, RMC Story. On est dans le Jura, c'est ça?
C'est ça.
De quel côté?
On est à Champagnole.
Bon, bah, comme disait Anne-Sophie, si je m'en réfère à elle, cool. Dans ce coin-là, c'est cool, quoi. Tout le monde est cool, non?
Voilà. Ouais, c'est cool, oui et non, hein. Oui et non. Je t'avoue qu'on était à Lyon la semaine dernière avec ma compagne. Alors, effectivement, on est dans un autre monde parce que là, il y a de quoi vraiment péter les plombs. Et ouais. Moi, clairement, je suis pas fait pour rouler dans ce type de ville et puis au centre-ville. Mais tout de même, dans les petites communes comme chez nous, il y a à peu près 10 000 habitants. On a quand même beaucoup de circulation. Il y a beaucoup de centres commerciaux. Il y a beaucoup d'attractivité aujourd'hui dans nos petites communes qui fait qu'il y a beaucoup de monde sur la route. Mais moi, ce qui me fait vraiment péter les plombs au volant, c'est de voir des gens qui conduisent de moins en moins bien. Ils connaissent plus les clignotants. Ah, ça, ils sont sur leur téléphone non-stop. On les voit, hein, dans le rétro ou quand ils sont devant nous, ils ont la tête baissée. Ils se dévoient à droite, à gauche. Ils freinent quand il faut pas freiner.
Ils s'imposent dans les ronds-points aussi.
Mais carrément.
C'est ça, ils bloquent les ronds-points.
Mais qu'est-ce qui vous énerve, Adrien? C'est le fait de constater que par leur comportement, il peut y avoir une mise en danger de votre personne. Oui. Et j'essaye de revenir à ce que je disais, à la crainte peut-être qu'on ressent.
Ouais, alors entre autres, il y a notamment ça. Moi, il y a aussi le fait que par le biais de mon métier, je suis toujours fréquemment sur la route et puis je suis
Vous faites quoi?
Alors, je suis chef d'entreprise dans le bâtiment.
D'accord.
Et je suis toujours en train de me déplacer entre certains chantiers, donc souvent dans la camionnette en utilitaire. Mais moi, mon temps, il est précieux, il est compté. Et si vous voulez, quand je me déplace entre deux chantiers, c'est pour moi, c'est du temps entre guillemets perdu. Donc, je dois avancer pas au plus vite possible parce que je suis pas là pour rouler à 80 sur en ville. Mmh. Mais je suis là pour essayer de pas trop perdre de temps pour aller faire mes dépannages, mes interventions, pour aller sur les chantiers. Et quand je vois des personnes devant moi, je parle pas spécialement des personnes âgées, mais des personnes qui conduisent très mal, qui n'avancent pas, qui mettent pas leur clignotant. Le feu est vert, mais ils sont sur leur téléphone en train de regarder une vidéo. Ils n'avancent pas. Les ronds-points, c'est un carnage.
Ça fluidifie pas, hein.
C'est un carnage. Mmh. Mais c'est un sketch. Vraiment. Mmh. Moi, j'habite, à 4 kilomètres de mon lieu de travail, de mon entreprise. Je mets 12 minutes le matin, 12 minutes le midi deux fois et 12 minutes le soir pour faire ces 4 kilomètres. Il y a 10 ans, je me souviens au début que je conduisais, j'aurais mis, je pense, 4 ou 5 minutes parce que c'était beaucoup plus fluide, parce que les gens étaient attentifs sur la route, aux autres voitures, aux panneaux de signalisation, aux feux, aux ronds-points.
Et c'était fluide, Adrien, ça circulait. Adrien, on n'est pas là pour se mentir. C'est le sous-titre de notre émission d'Estelle Midi. Ouais. Adrien, vous-même.
Je sens la question venir.
Vous êtes irréprochable.
Mais non, pas du tout. Pas du tout. Aujourd'hui, les téléphones, c'est le moyen de travail, hein, notamment dans le bâtiment, quand on a une petite société comme la mienne. Le but, c'est de répondre au téléphone, de répondre aux clients qui disent. Donc, on est dessus. On doit des fois avancer un tout petit peu plus. On doit, essayer de trouver. Mais moi, franchement, je suis désolé, mais je pète les plombs au volant. Je suis jamais sorti de mon véhicule parce que je suis pas fou, mais par contre je hurle, je klaxonne jamais non plus parce que j'aime pas ça, puis avec un utilitaire avec le nom dessus, c'est quand même pas terrible.
Ouais.
Mais par contre je pète les plombs, et quand il y a ma compagne ou quand il y a un employé à côté de moi, des fois il me regarde, mais il doit se dire mais c'est quoi ce fou,
qui est-il, qui est cette personne dans mon volant,
alors que là j'ai pris 2 jours lundi et aujourd'hui de repos, et là je suis au calme.
Détendez-vous, Adrien, détendez-vous,
ça va bien se passer.
Mais c'est vrai qu'on a beaucoup de pression aujourd'hui. Ouais. On a quand même un rythme de vie qui est assez dingue. Mais il y a pas mal de choses en fait qui viennent expliquer tout ça selon moi. Mais il y a aussi des gens qui roulent de moins en moins bien, qui connaissent plus leur clignotant, qui connaissent plus leur code de la route.
J'ai ma vision aussi d'automobiliste, Adrien. Et moi, je fais 70 km aller-retour par jour.
Ouais.
Je suis pas parfait, mais je pense. Alors, je vais employer des grands mots, mais je pense que la route, ça se partage. On est d'accord. C'est ce qu'on nous apprend lorsqu'on passe son permis. Ouais. On partage la route. Et le problème, c'est que l'individualisme.
On fait moins attention à l'autre.
Qui est ambiant, c'est chacun pour soi, quoi. Et le problème, c'est que lorsqu'on a tendance à se replier un peu sur soi, une société individualiste, c'est que partager, c'est un peu plus compliqué. Ça peut être. En tout cas, c'est une.
Mais je pense que c'est aggravé par le facteur de stress. C'est-à-dire qu'après quelques jours de vacances, il est beaucoup plus calme dans sa voiture. Et le rythme de vie qu'on impose, et les pressions qu'il a s'il est chef d'entreprise. Voilà, c'est.
Merci en tout cas, Adrien, d'avoir été avec nous. Et détendez-vous, Adrien. D'ailleurs, vous pouvez vous détendre en continuant à écouter RMC et à nous regarder sur RMC Story, puisqu'on sera là
les
tout au long.
Les gens énervés.
Et on sera là tout au long de la semaine. Merci, Adrien, d'avoir été avec nous. On retrouve quelqu'un de très calme tout de suite. Il est connu pour ça. Pierre Chasseret est avec nous. Bonjour Pierre.
Bonjour, en pleine détente, calme.
Il s'énerve que contre les impôts.
Bienvenue en fait. Pierre Chasseret dans Estelle Midi, délégué général de l'association 40 millions d'automobilistes. Pierre, ce baromètre dont nous a parlé tout à l'heure Alfred, qui est à mes côtés, baromètre de la Fondation Vinci Autoroutes, qui nous dit que les comportements sur la route, ça s'aggrave, c'est déplorable, on est tous des sauvages, en quelque sorte. En tout cas, on est de plus en plus agressifs. Pierre, est-ce que ça te surprend?
Alors déjà un point, moi j'ai toujours du mal à comprendre un baromètre établi par une société, donc là en l'occurrence Vinci, et ce baromètre consiste à dire que leurs clients, les automobilistes, sont tous des cons. J'ai toujours quand même... Non mais c'est quelque chose qui m'échappe dans la stratégie de communication de cette entreprise.
Ah, parce que tu sais que Vinci Autoroute, c'est la fondation Vinci Autoroute qui milite pour la
sécurité autoroute.
Non, puis
ils donnent un vernis de...
Non, puis qui milite pour la sécurité routière aussi.
Oui, enfin moi j'invite le président de Vinci à venir au volant à côté de moi et puis on va voir si lui il est parfait.
Oui.
Parce que on n'est pas parfait.
Ça veut dire quoi, Pierre? T'as pas l'impression que ça se dégrade?
Une dégradation, non, mais il y a des nouveaux outils de communication type téléphone qui aujourd'hui, c'est comme le fameux il y a plus de saison, ma pauvre dame, là c'est la même chose. On a toujours la sensation qu'en fait c'est de pire en pire. Bon, ça évolue pas, quand on regarde le nombre d'accidents, ça reste stable.
Ouais.
Ça n'évolue pas positivement, ça n'évolue pas non plus de manière négative. Il y a certes un cancer de la sécurité routière actuellement qui s'appelle le téléphone portable. Et puis ce qui s'est accompagné de cette émergence du téléphone, c'est le stress. En fait, la différence entre... réfléchissez bien, quand on est énervé au volant, c'est quand on est à la bourre. Quand vous avez un quart d'heure d'avance, on est beaucoup plus zen, bizarrement. Donc en fait, c'est cette société du tout rapide et du retard constant...
De l'immédiateté.
...à être dans des situations de stress... Et ces situations de stress amènent de l'énervement.
Mais parfois le retard il n'est pas contrôlé, Pierre. Parfois le retard il est parce que il y a eu des travaux, parce qu'il y a eu un accident, parce que on contrôle pas toujours son retard. Et c'est ce qui
est à Paris on appelle ça le Anne Hidalgo.
Oui voilà.
Et c'est là Daniel que ça devient gênant, c'est qu'à chaque fois qu'on est sur et c'est où c'est le plus stressant, c'est quand vous êtes sur un horaire qui est bien calculé, où il n'y a pas de problème, et que vous avez un élément extérieur qui vient ralentir. Et là, ça y est.
Et on voit avec le GPS le temps qui augmente.
Ah ouais, c'est une horreur. Donc, on vit tous ces choses-là. Mais pourquoi? Parce que aujourd'hui, pourquoi ça s'est amplifié ce phénomène? Parce qu'on est tous avec des GPS qui nous donnent une heure d'arrivée.
C'est ça.
Et si on commence à prendre ne serait-ce que 4 minutes de plus que le GPS, parce que vous savez que Waze, c'est pas l'heure d'arrivée, c'est le temps à battre. Hein. Donc, on fonctionne tous un peu comme ça.
Non, mais t'as raison.
On veut gratter du temps.
Et quand on voit les minutes s'accumuler,
c'est terrible parce que dit Pierre, parce que moi-même, j'utilise le GPS. Quand j'ai eu l'occasion et la chance de partir en vacances, par exemple, et quand je vois heure d'arrivée estimée 11h28, je me dis immédiatement, je vais arriver avant.
Alors attends, tu sais quoi?
C'est terrible. Hein.
Excusez-moi, anecdote. Ce week-end, alors je sais pas si c'est à ça que tu fais allusion, si t'es dans cette catégorie. Je ne savais pas que cette catégorie de gens existait.
C'est terrible.
Ce week-end, j'ai rencontré quelqu'un dont l'un des objectifs était de battre Waze.
Ah mais il y en a, c'est ce que dit Pierre.
Je vais arriver avant. Alors là, j'ai bouche bée devant. Je comprends pas l'idée, quoi.
Puis généralement, ça joue à 3-4
minutes. Oui, c'est ça. Tu gagnes pas grand chose.
Bah, vous avez déjà rencontré. Bah, je sais
non,
pas.
Non, on perd un peu d'argent sur le radar aussi, mais bon.
Ouais, c'est vrai.
Pierre,
ça serait quoi le conseil que tu nous donnerais à nous tous? Parce qu'on est tous des automobilistes en puissance. Alors, là.
C'est même pas un conseil. Je vais avoir un côté donneur de leçons que je déteste en moi.
C'est pas grave.
Malheureusement, sur ce coup-là, il n'y a pas trop le choix. C'est juste de se dire que quand on est tous d'accord pour dresser le simple constat que les autres ne respectent pas le code. J'ai entendu Adrien qui disait les autres sur les ronds-points et j'aurais bien aimé lui demander tiens la règle du clignotant sur le rond-point. Juste à Adrien pour savoir si lui pouvait répondre. En fait, les autres, c'est nous. Quand on est sur la route, tu vois, Daniel, si demain t'es sur la route, c'est sûr que tu vas faire 2-3 conneries. Tu vas monter en voiture avec moi, je vais faire 2-3 conneries. On en fait tous 2-3. Mais quand on est automobiliste, on ne repère que les petites bêtises des autres. Donc,
les nôtres, elles sont moins graves.
J'avais fait ça à l'association.
Parce que nous, on maîtrise.
Au tout début que j'étais arrivé à l'association, j'avais voulu comprendre un petit peu le comportement. J'avais posé une question aux sympathisants, leur disant « Est-ce que vous êtes tous d'accord pour dire, grosso modo, que les autres représentent un danger ?» Alors tout le monde disait « Oui ». Et je leur demandais après si eux, ils représentaient un danger. La réponse, c'était non. Donc en fait, la réponse, c'est « On est tous d'accord pour dire que les autres font des bêtises ?» Ouais, super. Les autres, c'est moi. Donc, on en fait tous un petit peu de tolérance. Ça arrive à tout le monde de se planter sur un rond-point, de faire un tour supplémentaire parce qu'on n'a pas loupé la sortie. Et finalement, c'est pas la fin du monde.
Merci beaucoup, Pierre Chasseret, d'avoir été avec nous, délégué général de l'association 40 millions d'automobilistes. On va au 32-16, on retourne au 32-16 pour rejoindre Cédric. Bonjour Cédric.
Et bonjour à tous.
Bienvenue dans Estelle Midi sur RMC, RMC Story. Vous êtes dans les Alpes-Maritimes, c'est ça?
Exactement, oui.
Dans quel coin?
Là, je suis en train de livrer entre Cannes et Grasse sur Auribeau.
Livreur?
C'est ça, livreur Amazon.
Ouf. Dur?
Ça s'énerve ou pas?
Dur, bah ça va, j'ai que 110 arrêts, 170 colis aujourd'hui.
Ouais, mais c'est déjà, c'est énorme. Ça me fait des frissons. Mais Cédric, est-ce que au volant, enfin sur la route, vous avez l'impression que ça se dégrade, le comportement des autres?
Oui. Ça fait un peu plus de 2 ans que je suis dans la livraison et c'est de pire en pire. C'est un égoïsme perpétuel. Je pourrais avoir des anecdotes tous les jours à raconter.
Bah, tu racontes-nous-en une.
Ce matin encore sur l'autoroute. Il y a la portion entre Saint-Laurent-du-Var et Cannes-sur-Mer qui est limitée maintenant à 70 sur l'autoroute.
Ouais.
Je suis à 90-95 sur la voie de gauche. Et
c'est pas bien déjà. Hein.
C'est déjà pas bien, exactement. Mais appel de phare, clignotant à gauche parce que la personne derrière est pressée. Ou même, il y a encore la semaine dernière, je suis sur
ça,
un
ça va, Cédric, c'est pas non plus...
Oui, vous pouvez le laisser passer
on imagine que Cédric fait ça toute la journée, c'est-à-dire qu'il
vit toute la journée,
c'est des coups de stress comme ça quotidien.
On veut un truc plus grave.
Plus grave, je me suis fait rentrer dedans il y a 6 mois.
Ah oui, là oui, effectivement.
Ça s'est passé comment?
Je suis sur la route d'Auribeau, j'attends de tourner à gauche parce qu'il y a des voitures qui arrivent en face, c'est limité à 50, il y a 100 mètres de visibilité derrière moi, et j'ai une voiture qui arrive à 90 qui me rentre en plein dedans.
Grave.
J'étais arrêté un mois et demi camion était complètement éclaté à l'arrière.
Et cette personne, pourquoi elle s'est pas arrêtée?
Parce que il avait pas vu que, comme j'ai un camion automatique, donc je suis sur l'accélérateur prêt à enchaîner, donc on voit pas les feux de stop à l'arrière.
Aïe.
Et il devait être sur son volant, sur son téléphone. Voilà, il a pas fait attention, et puis il est arrivé. J'ai vu arriver dans le rétro. Au moment où j'ai vu dans le rétro, je me suis dit, lui, il me rentre dedans, c'était sûr.
Et il vous a percuté à quelle vitesse, vous savez, à peu près?
Il a eu le temps de ralentir peut-être une seconde avant de me taper dedans, donc il a dû me taper à 70-80.
Wow, c'est énorme.
Le SOS qui s'est dit, parce qu'on est connecté avec le réseau téléphone des camions, et donc du coup j'ai l'assistance accident qui m'a appelé directement. J'étais même pas au courant qu'il y avait l'assistance accident.
Est-ce que aujourd'hui, très clairement, c'est votre métier, hein, Cédric Laroute, quelque part? Est-ce que vous avez peur?
Peur, non, c'est ce que je dis à l'antenne. Moi, maintenant, je m'énerve plus. Quand je prends des insultes ou des coups de klaxon, je parle à la personne en me moquant d'elle avec ironie. En lui disant que je suis désolé, que je savais pas que la route était uniquement à lui et que je n'avais pas l'autorisation de le croiser, par exemple.
Ça doit les énerver.
Non, ça les énerve pas souvent.
Ça fait retomber.
Ils sont plus surpris.
Ouais. Ils se trouvent un peu bêtes, je pense.
Voilà, je reçois juste une petite insulte qui finit par A et ça repart en disant je m'attendais pas à ça, quoi.
Et une dernière question, Cédric, très rapidement. Vous m'avez laissé entendre à l'instant que livreur pour l'instant, vous allez arrêter?
Je suis en transition, en fait. Comme vous l'avez parlé juste avant du chômage, moi je profite de continuer à travailler pour lancer mon entreprise de création de jeux de société.
D'accord, très bien.
C'est plus calme.
Vous nous tiendrez au courant, tiens.
Ouais, s'il y en a qui ont envie de voir un petit peu ce que je fais, là, je vais vendre mes premiers jeux d'ici quelques jours, quelques semaines, le temps de monter le site en ligne. Mais j'ai déjà une page Facebook, c'est Blackbee.
Blackbee. D'accord, très bien. Blackbee, ok. C'est noté, Cédric.
La baie noire.
Merci d'avoir été avec nous dans Estelle Midi. Bonne chance à vous pour votre conversion. Merci, Cédric, qui nous a fait au 32-16.
Il y a un film qui s'appelle Chute libre avec Michael Douglas qui raconte un type qui pète un plomb pendant un embouteillage. C'est tout ce qu'il faut pas faire.
Mais il a d'autres problèmes.
C'est sûr.
Mais ça commence par un embouteillage, effectivement.
Mais ça commence vraiment que par ça. Parce qu'après, en plus, c'est
vraiment
génial, quand même.
Allez, on vous a posé la question. Sommes-nous tous devenus des sauvages sur la route? La réponse, Alfred.
Constat sans appel, vous répondez oui à 70%, non à 30%. Deux derniers messages, Nicolas qui nous dit incivilité et agressivité, c'est mon quotidien au volant, pas de police sur la route, sanctions ridicules pour ne pas dire inexistantes. Et puis Luc qui nous dit, moi ce qui me rend fou, ce sont les automobilistes qui restent à 90 sur la 3 voies, là je pète les plombs.
Allez, dans un instant, le meilleur du jour sur RMC, notre zapping quotidien, on se retrouve donc dans un instant dans Estelle Midi sur RMC, RMC Story.
RMC, midi 15h, Estelle Midi,
Rémi Barré.
Estelle Midi, comme tous les jours, midi 15h sur RMC, RMC Story. Tout de suite, c'est le meilleur du jour sur RMC.
RMC, Estelle Midi,
le zapping RMC.
On commence avec un extrait des GG. Fallait-il virer la dame pipi de la gare Montparnasse? C'est très sérieux. Émotion sur les réseaux sociaux. Après qu'une employée âgée de 53 ans a été licenciée pour faute grave, la faute en question, cette femme a été filmée en train de prendre 1 euro laissé par un client en guise de pourboire. Pratique totalement interdite par l'entreprise Deutello, ou Toutello, je ne sais pas comment ça se prononce, qui assure le nettoyage des toilettes publiques de cette gare. Du vol pour l'entreprise, une véritable dérive dangereuse pour le docteur Jérôme Marty. Il était ce matin donc dans les GG.
On est en plein dans les dérives de nos sociétés avec la financiarisation, quoi, et l'exploitation d'un certain nombre de salariés dans des systèmes où on se fout éperdument à la fois et de la santé, du bien-être et de la qualité de travail et de tout ce qu'on veut, quoi. C'est un euro pris par une dame et on la vire. Il n'y a pas d'avertissement, il n'y a pas de blâme, il n'y a pas d'explication, il n'y a pas de papier donné, il n'y a rien.
L'entreprise affirme que la société ne fonctionne pas avec un système de pourboire.
Oui, non, elle fonctionne pas.
Les employés doivent verser des pourboires dans la caisse.
La société, elle prend la sous-traitance donc des toilettes de la gare...
Montparnasse.
Une trentaine de gares au total. Une trentaine de gares, ce qui prouve quand même, si elle le fait, comme la société n'est pas bienfaitrice de l'humanité, on peut supposer que ça lui rapporte. Et pour rapporter ce genre de choses, on ne paie pas ses salariés ou on les paie mal, on les fout dehors facilement, on ne respecte pas forcément les lois du travail, mais ça on le verra puisqu'elle va au prud'homme, je crois.
Anne-Sophie Saint-Père.
Alors, à mon avis, si cette histoire est telle qu'on nous la raconte, ça va pas bien tenir au prud'homme. Hein. L'employeur risque de se faire condamner. D'autant plus que, même imaginons que, je veux bien entendre qu'il y a des règles sur les pourboires, mais en fait, il y a toute une gamme de sanctions en licenciement, donc ça me paraît tout à fait exagéré. Cette dame a bien raison d'aller au prud'homme.
Même, je pense que ça sera très compliqué parce que un licenciement pour faute grave, normalement, c'est justifié par un comportement du salarié qui constitue une violation sérieuse et immédiate de ses obligations contractuelles, rendant impossible son maintien dans l'entreprise. Pour prouver que cette situation...
Parce que même si le fait de percevoir des pourboires est interdit... Bon,
voilà, alors après, ça on ne connaît pas le dossier, on ne connaît pas la situation, il y a peut-être un contentieux entre cet employé et son employeur ou son chef direct, enfin, il y a plein de choses qui font que il faut effectivement que la procédure suive son cours. J'espère pour elle qu'à 53 ans, elle va retrouver du travail et que son licenciement sera évidemment invalidé.
Ouais, ça, le problème, c'est Daniel. C'est typiquement le genre d'affaires sensationnalistes qui donnent des conclusions un petit peu hâtives parce que, vous l'avez dit, on n'a pas tous les tenants et les aboutissements. Et le raisonnement de Jérôme Marty, je le comprends pas. Si le problème, c'est 1 euro ou c'est quoi? Ou c'est le principe qu'on vole pas et on ne fait pas quelque chose qui n'est pas prévu par son contrat de travail. Si elle avait mis en place, j'en sais rien, un détournement sur un an de 10 000 euros. Ou 2000 euros, on aurait plus justifié. Non, il faut voir quelles sont les règles. Il faut, comme a dit Anne-Sophie, qu'on aille voir si au prud'homme il s'est... Carrément, Marty, il accuse l'entreprise de mal se comporter, limite de détourner des fonds, d'exploitation. Enfin, le sensationnalisme que j'évoquais, c'est parce que c'est un métier difficile et que c'est pour 1 euro ce qui semble être une misère et que donc l'affaire n'est pas grave. Évidemment, là-dessus, on va tous dire c'est quoi de pas hallucinant, tu vires pas quelqu'un pour ça.
C'est ce que tu veux dire de la conclure que tous les patrons sont devenus inhumains, que les grandes entreprises se comportent comme des voyous.
Et ça, je suis absolument d'accord pour avoir ce point de vue-là et de me pencher sur le truc. J'ai dit, c'est l'histoire, elle semble complètement dingue. Tu vires pas quelqu'un pour ça, pourquoi elle l'a fait, pourquoi pour si peu. Voilà. Donc on n'a pas, elle va se défendre, j'espère qu'elle pourra surtout se défendre. Et qu'on voit si le licenciement est justifié ou non. Derrière, est-ce qu'il y a quelque chose de plus grave? A priori, non. A priori, j'ai du mal, moi, tout le temps du mal à envisager qu'il y ait un détournement de grande ampleur pour une affaire pareille. Mais je trouve qu'on va un petit peu vite et qu'il y a des conclusions, en revanche, qu'on peut pas entendre. C'est pas genre, c'est pas grave parce que c'est si et c'est pas ça. Et alors, une règle est une règle. On pique pas dans la caisse, quoi.
Apolline Matin, le voyage du président chinois en France vous rend-il fier? Le déplacement officiel. Voilà une visite, en tout cas, qui fait parler, arrivée hier. Xi Jinping se trouve aujourd'hui dans les Hautes-Pyrénées en compagnie du couple Macron. En ce moment, il déjeune au restaurant de l'étape du Berger. L'étape du Berger dont le chef s'appelle Éric Abadi. Il est passé au standard d'RMC ce matin, au 32-16. Et il nous a dévoilé le menu du jour.
On va mettre de la garbure, de l'agneau de lait confit, ce qu'on fait habituellement. On a des produits qui sont reconnus au niveau international, puisqu'on a le porc noir, c'est un des meilleurs jambons au monde. Donc après, bon, on n'a pas besoin d'artifice, on n'a pas besoin de tout ça, donc on met nos produits en avant.
Bon, ce déjeuner, Thierry Moreau, il est anecdotique, mais la vraie question, on est en pleine réelle politique, comme on dit. Là, on vient d'apprendre que la Chine allait ouvrir grande ses portes au port volaille française. Hier, c'était le cognac. Et la Chine, en tout cas le régime chinois, évidemment, le régime chinois n'est pas un régime comme un autre. Mais c'est toujours cette question, est-ce qu'on doit frayer avec ce type de régime?
C'est pour ça
régime.
Que c'est difficile de répondre à cette question, fier ou pas fier. En fait, la question, elle n'est pas là. Elle est qu'aujourd'hui, la Chine est un acteur majeur dans plein de choses. Et sur le plan économique, vous l'avez dit, sur le plan militaire aussi. Mmh. On sait que les relations avec la Russie font que c'est un acteur majeur.
Mais est-ce qu'on est obligé de...
On ne peut pas faire autrement.
Non, mais c'est pas ça. C'est de ce déplacement dans les Pyrénées.
Quitte à recevoir...
Déjeuner...
Non, mais à partir du moment où on décide de recevoir, pour ce qu'on appelle, sur le plan protocolaire, une visite d'État...
On ne peut pas le faire sobrement.
C'est ce que j'allais dire. Une visite d'État, c'est un truc protocolairement qui est extrêmement établi. Mmh. Ça dure 3 jours, il y a un certain nombre de fagnons qui sont sur les Champs-Élysées, etc. Enfin, c'est très codifié, la diplomatie. Donc, soit on met les petits plats dans les grands, et on fait donc la visite d'État comme elle doit être faite, avec tous les us et coutumes de la diplomatie, soit on ne le fait pas. Mais si on le fait, faut y aller franco. Donc autant effectivement le faire goûter nos spécialités, essayer de décrocher des contrats, discuter avec lui, essayer d'infléchir certains trucs sur la politique internationale, sur les droits de l'homme, on fera pas grand-chose parce qu'il fait ce qu'il veut chez lui.
Anne-Sophie.
Alors je peux pas dire que ça me rende fière parce qu'effectivement on est tous bien conscients du bilan en matière de droits humains en Chine et j'espère que le président Macron trouvera un espace pour évoquer la répression des Ouïghours, pour évoquer aussi l'écrasement des militants à Hong Kong. Il y avait de grandes manifestations qu'on avait largement soutenues et la Chine a fait adopter une loi sur la sécurité intérieure, sur la sécurité nationale qui muselle toute opposition à Hong Kong. Donc vraiment, j'espère qu'il y aura un espace. Ensuite, effectivement, tant qu'on ne rompt pas les relations diplomatiques, on a des relations diplomatiques. Je suis un petit peu sceptique sur le fait de se rendre économiquement dépendant de la Chine. Alors évidemment, on l'est, hein, mais en tout cas de renforcer cet aspect-là, parce qu'on sait que c'est un pays qui est une dictature, qui viole les droits humains, et qu'il est mieux d'avoir le moins de dépendance possible si à un moment on a besoin de sévir.
Daniel.
Ah, comme à chaque fois qu'il y a un chef d'État qui vient en visite officielle, on a tout le temps les polémiques. Alors, il nous faut d'abord sortir la liste des pays fréquentables. Ça, on l'a toujours. C'est pas...
Daniel, après, on l'a moins avec l'Allemagne, par exemple.
Tu admettras que le régime chinois n'est pas un régime comme les autres.
Et bien sûr que je l'admettrai sans problème. Mais il nous faut la liste des pays fréquentables, qui n'est pas très très longue. Hein, mais de toute façon, je pense que nous, on doit être sur une liste de pays pas fréquentables pour d'autres. Mais on est toujours là à donner des leçons. J'ai entendu M. Glucksmann ce matin, candidat qui monte, PS. En vue des européennes, donner la leçon et faire la liste de tout ce que la Chine fait de mal. Je pense que s'il était gouvernement, il ferait à peu près la même chose. Hein, et il inviterait le président chinois et puis il mettrait les petits plats dans les grands de la même façon, parce que c'est effectivement la réelle politique et qu'on n'est pas là tout le temps pour donner des leçons à ce que font les autres dans le monde, surtout quand ils sont plus gros que vous. Donc moi, pour répondre directement à la question, j'aime voir quand la France est capable de recevoir de cette façon, quand je vois défiler des grands chefs d'entreprise, des acteurs, des réalisateurs, des comédiennes qui représentent la France dans le monde. J'aime encore savoir avec surprise que Mireille Mathieu est une idole en Chine. Je pensais que c'était fini. Ben non, donc elle était là. Et visiblement le président chinois cachait sa joie parce qu'il sourit pas des masses, hein. On n'arrive pas trop à savoir si ça lui fait vraiment plaisir. Je me demande toujours dans ce cas-là si le chef qu'on a eu à l'antenne il y a 2 minutes, il demande à un homologue en Chine, parce qu'il peut pas lui non plus servir un truc, t'imagines, il dit ah j'aime pas l'agneau moi. Ah non, on serait un peu dans la merde s'il disait ça. Ouais. Donc j'imagine qu'il prend des notes, on doit lui dire le président aime ça,
Le protocole s'en charge.
Voilà, et puis après il fournit à peu près ce que la France peut faire de mieux dans le domaine. Et je trouve que c'est très bien comme ça. Après, savoir s'il va lui glisser un mot sur les Ouïghours, bah, on est tous d'accord pour dire que ce serait très bien de le faire. Mais que s'il le fait et que le président chinois il en a rien à cirer, bah, il en aura rien à cirer, quoi. Donc voilà, c'est le jeu diplomatique. Je pense que on donne un bout, on prend un bout, et que chacun essaye de faire un pas vers l'autre, et que l'important surtout, c'est plutôt d'essayer d'être bien avec le président chinois, parce qu'on sait que l'axe qu'essaye de construire la Chine avec la Russie, il est un peu inquiétant, il est pas en notre faveur, et que donc il faut pas vraiment se brouiller avec le président chinois, et qu'il vaut mieux lui servir un bon agneau, et que si Mireille Mathieu lui chante une petite chanson à la fin du repas et qu'il est content. Eh ben, on ira tous se coucher en se disant qu'il peut y avoir un peu plus de paix dans le monde.
Apolline Matin, grand amoureux des livres.
On peut l'espérer, Thierry. Je dis pas que c'est, hein. Voilà.
Apolline Matin, donc, grand amoureux des livres, homme de télévision passionnant, Bernard Pivot, est mort hier à 89 ans. On voulait revenir, écoutez l'homme de Nicolas Poiret, l'hommage de Nicolas Poincaré ce matin. Il revient sur les moments forts de l'émission culte, apostrophe, évidemment.
Oui, apostrophe a duré 15 ans, de 1975 à 1990. Le 11 avril 1975, Bernard Pivot reçoit Solzhenitsyn pour l'archipel du Goulag. L'écrivain russe raconte l'univers concentrationnaire soviétique. À partir de ce jour, les communistes français ne peuvent plus dire qu'ils ne savaient pas. Un mois plus tard, Pivot reçoit un autre écrivain russe, Nabokov, l'auteur de Lolita, qui fait semblant de boire du thé, mais on lui sert en réalité du whisky et il termine l'entretien complètement bourré. En 1978, c'est un écrivain américain, Charles Bukowski, qui quitte lui aussi le plateau en titubant et en insultant tout le monde. On peut aussi se souvenir des numéros de charme de Jean d'Ormesson ou bien du jeune philosophe inconnu avec sa chemise grande ouverte, c'était Bernard-Henri Lévy, ou bien encore d'une des dernières émissions, sans doute celle dont Bernard Pivot était le moins fier. Gabriel Metzneff se vantait de ses conquêtes de très très jeunes filles et garçons sans être interrompu, jusqu'à ce qu'enfin l'écrivaine canadienne Denise Bombardier se dise scandalisée et ose l'interrompre, mais elle a été très seule ce soir.
Nicolas Poincaré qui ont perdu sa voix ce matin. Oui. Thierry Moreau, journaliste média, évidemment, oui. Je me tourne d'abord vers toi. Est-ce que tu penses que, que Bernard Pivot parlait encore beaucoup à beaucoup de Français? Alors, il parlera encore à beaucoup de Français.
Il parlait quand même aux Français, parce que je rappelle que quand il a quitté la télévision, il s'est mis sur les réseaux sociaux et sur Twitter, il avait un phrasé acéré, des formules très bien ciselées, et donc il existait aussi pour un certain nombre de gens. Moi, je retiendrai surtout ce qu'il a inventé. Il a inventé plusieurs choses. D'abord, il a inventé le buzz, parce qu'on n'appelait pas ça le buzz. Mais quand il met sur un même plateau Georges Brassens et pacifiste et le général Bijard, évidemment, ça pétait. Il a fait comme ça plusieurs émissions, et il a fait ça avant tout le monde, avant De Chavannes, avant tous ceux qui l'ont fait ensuite. Et ça, c'est un truc important. La deuxième chose, il avait une règle que je trouvais très importante et qu'on devrait redire à toutes les émissions culturelles qui sont diffusées, c'est qu'il demandait à tous ses invités de lire les livres des autres pour être capable d'en parler. Et ça, c'est quelque chose, franchement, qui ne se fait plus beaucoup, et c'est bien dommage. Et puis, il a apporté beaucoup, effectivement. C'était une émission, et il n'y en a pas beaucoup, prescriptrice, c'est-à-dire que le lendemain, quand vous étiez passé à apostrophe, et d'ailleurs il y en a qui s'en plaignaient en disant que ça donnait un peu trop le là de la politique culturelle française, ou en tout cas de la consommation culturelle française, mais quand on passait chez apostrophe, on vendait son livre derrière.
Il y avait un tiers, j'ai entendu hier, un tiers des ventes de livres quand il y avait une émission.
Et puis il faisait entre 3 et 5 millions de téléspectateurs, jusqu'à 6 millions dans les trucs. Alors d'abord, il y avait moins de chaînes, et surtout, c'était une deuxième partie de soirée, mais elle commençait à 21h40. 21h40, c'est l'heure à laquelle commencent à peu près nos programmes maintenant.
On n'a pas le temps de déborder, mais Thierry, justement, est-ce que là, c'était vraiment une promesse du service public qui était tenue? Et est-ce qu'elle l'est encore aujourd'hui?
Ah oui, elle l'est tenue. Il y a plein d'émissions aujourd'hui culturelles très intéressantes. Mais oui, il a tenu cette promesse-là. Avant, ça s'appelait Ouvrez les guillemets. Après, ça s'est appelé apostrophe. Il y a ensuite Bouillon de culture. Le service public, il y a toujours une tradition d'émissions culturelles.
Daniel?
Bah, ça fait effectivement référence à beaucoup de souvenirs. C'est les grandes heures de la télévision, mais à une époque où la télé, il y avait trois chaînes. Et donc un rendez-vous pareil, c'était difficile de passer à côté. Après, toute la France ne regardait pas. C'était une émission pour un télo, pour prof. Les profs de français, quand t'arrivais à l'école et tu leur disais que t'avais regardé apostrophe, bon bah t'as l'impression que tu prenais un point de plus sur la prochaine lycée.
Il y a plus de gens qui disent l'avoir regardé que de gens qui l'ont
exactement,
vraiment regardé.
Exactement, sans parler de ceux qui allaient pas au bout, ceux qui regardaient pas, mais c'était effectivement une sorte d'institution de la télé. Si t'avais dit j'ai regardé apostrophe, on te regardait.
Hormis Alfred, Anne-Sophie, t'es la plus jeune sur le plateau. Est-ce que ça te parle, Bernard Pivot?
Alors oui, mais par contre, je dois reconnaître que je ne regardais pas l'émission. Je savais pas qu'on prenait un point en français en regardant. On aurait dû me dire.
Les profs qui t'a fait.
Non. Après, ça veut pas.
Les profs qui faisaient cette
allusion. Si t'aurais su.
Si j'aurais su, j'aurais regardé. Mais non. Après, moi, du coup, de fait, ce qui est terrible, c'est que je n'ai vu que les extraits controversés, c'est-à-dire Maznev ou l'entretien avec Nabokov, qui est quand même terrible, puisque Pivot fait ce contresens absolu à décrire Lolita comme une perverse, alors que c'était un livre sur la pédophilie. Et c'est vrai que de ce point de vue-là, l'émission est un peu vieillie.
Après, il est revenu hein, sur
oui.
Les...
Oui, il a fait 729
émissions, il a dit, voilà. Dont 3 ont
mais
été
mais c'est vrai que à regarder, c'est gênant aujourd'hui.
729, oui.
Allez, dans un instant, RMC s'engage avec vous et on va s'engager avec des lycéens qui sont stagiaires en bac pro. Normalement, ils doivent être rémunérés, bah, ils attendent toujours. C'est dans un instant, dans Estelle Midi, sur RMC et RMC Story.
RMC, midi 15h, Estelle Midi,
Rémi Barré.
Estelle Midi, comme tous les jours, midi 15h sur RMC, RMC Story, le canal 23 de la TNT. Et elle vient d'arriver dans le studio, elle s'appelle Solène Leroux. Elle est venue avec une info RMC, attention.
Estelle Midi,
RMC s'engage avec vous.
Salut Solène.
Salut Rémi, salut.
Je le disais, c'est une info RMC. Mm-hmm. Aujourd'hui dans RMC Conso, on pointe du doigt un dispositif gouvernemental à destination des jeunes qui a pris du retard. Mais quand je dis du retard, c'est même... Beaucoup.
Effectivement, là, je pense qu'on peut dire beaucoup. Il s'adresse, en fait, ce dispositif à tous les lycéens qui préparent un bac professionnel pour
valoriser.
Je savais que j'allais pas
réussir.
Pour valoriser ces filières. Il y avait un B, il y avait un F.
Avenir,
voilà.
Hein.
Le gouvernement a décidé de rémunérer ces stages depuis la rentrée. En fait, c'est 50 euros par semaine quand on est en seconde, 75 quand on est en première et 100 quand on est en terminale. Bien. Axel a fait un stage c'est en septembre ça. Dernier et lorsque son père nous écrit mi-avril, eh ben, il n'a toujours pas été payé.
On a eu des réponses, surtout savoir si c'était maintenu. Il y a des promesses qui ont été faites et actuellement, elles ne sont pas tenues.
Ouais, et au total, Axel, il attend 800 euros et il n'est pas le seul. Son camarade de classe, Johan, est dans le même cas.
C'est quand même national. On est des centaines de milliers à avoir besoin d'une aide.
On va avoir les grosses dépenses qui vont arriver. Donc, je pense par exemple au permis. Ou... C'est inadmissible qu'il y ait un tel retard et que personne n'en parle.
Moi, je trouve ça très bien. Ils découvrent la vie et l'administration française. Voilà, ça fait partie de leur formation. Alors, qu'est-ce qui se passe exactement avec ce dispositif?
Et ben avec Marilyn Hotman, on a découvert que tous les lycéens en bac pro sont concernés par ces retards. Ça concerne quand même 630 000, près de 630 000 élèves. Wow. Et le problème a pris une telle ampleur que la porte-parole du gouvernement a dû s'expliquer publiquement. Je la cite, « J'annonce aux familles que d'ici la semaine prochaine, 100 000 lycéens verront leur gratification arriver et sur les semaines à venir, le reste arrivera. »
Il y a donc beaucoup d'arrivées.
Oui, ça, c'est une promesse de Prisca Thévenot. C'était le 9 avril. Alors, on a vérifié. C'est une information RMC. À ce jour, selon les chiffres du ministère, 300 000 versements ont été faits, soit la moitié des lycéens. Le rythme annoncé est donc respecté.
Tout arrive.
Et oui. Sauf que Axel et Johan donc, font partie de ces chanceux-là qui ont été payés, mais ils n'ont été payés que pour les stages de septembre.
Oh,
pas pour ceux de janvier, donc ils attendent encore 400 euros.
Et là, comment le gouvernement se justifie?
Eh ben, réponse du ministère de l'Éducation nationale, le processus a pris du retard sur le plan informatique.
Le fameux bug, mais oui.
En fait, il l'explique aussi parce que c'est la première année de ce dispositif inédit. Bon, bah, soit. Mmh. Et le ministère veut en tout cas rassurer les lycéens. Toutes les périodes de formation feront bien l'objet d'un versement avant la fin de l'année scolaire. On vérifiera tout ça, bien entendu. Mmh. Et surtout, on espère que ça arrivera à temps pour l'été.
Bah oui, ça serait bien quand même. Mmh. Avant septembre même,
oui,
à la rentrée prochaine. Allez, merci beaucoup. Merci Solène. Tiens Solène, tu es là demain?
Tout à fait, je
donc
suis là demain.
Tu ne pars pas en long week-end?
Ah non,
pas, tu
non,
ne
non,
seras
non.
pas sur les routes.
Du tout, absolument
bon,
pas.
Parce que dans un instant, on va en parler dans Estelle Midi. Le long, long week-end de l'Ascension débute dans quelques heures. J'ai regardé le prochain de ce type-là où vous avez deux jours fériés qui se suivent comme ça en mai et que vous pouvez poser le vendredi et vous avez donc du coup cinq jours de week-end. La prochaine, ça sera en 2043.
Ah oui.
Oui, donc profitez bien. Profitez bien. Et vous allez en tout cas être très très nombreux apparemment en profiter, à prendre la route. Thierry en témoignait, il y avait déjà beaucoup de monde ce matin. La journée est classée rouge sur l'ensemble des routes de France dans le sens des départs. Mais on vous pose cette question. Pour être heureux, est-ce qu'il faut absolument partir? Vous nous appelez au 3216.
C'est beau.
C'est dans un instant dans Estelle Midi sur RMC, RMC Story.
RMC, midi 15h.
Estelle Midi.